à Dieu. Béni soit Dieu, loué soit l'Éternel. Ce matin, j'aimerais entamer une série de messages sur le thème de saisir la grâce. On entend très souvent parler de la grâce, mais qu'est-ce qu'est la grâce ? Comment la saisir ? Comment la vivre ? Comment bien interpréter ? Et l'esprit qui est attaché à la grâce, qui est l'esprit de Dieu, n'est-ce pas ? Pour ne pas confondre l'esprit du monde, permissif, un esprit qui se tourne et qui cherche toujours le compromis, et de faire de confusion. Que Dieu nous garde, parce que vous savez, la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, il y aura des doctrines qui iront de droite à gauche pour essayer de séduire même les enfants de Dieu. Alors que Dieu nous garde d'une telle chose, que Dieu nous garde et nous préserve d'une telle chose. Alors j'aimerais que nous puissions véritablement ensemble encore nous approcher du Dieu de grâce et ainsi mieux connaître l'Éternel. Amen. On va faire une lecture ensemble dans l'Évangile de Jean, chapitre 1. L'Évangile de Jean, chapitre 1, Jean démarre l'écriture de cet évangile d'une manière différente des autres. D'ailleurs, si vous regardez, Matthieu commence par la généalogie de Jésus, n'est-ce pas ? Si vous prenez Marc, lui, il commence par la prophétie d'Ésaïe et le message de Jean-Baptiste. Si nous prenons Luc, lui, il démarre par la naissance de Jésus. Et Jean, on a le sentiment qu'il part bien plus en arrière pour nous amener dans une perspective différente. De là l'importance pour nous de lire toute la parole. Il n'y a jamais de confusion dans la parole de Dieu. Mais nous avons besoin de tout l'éclairage de Dieu pour la saisir et ainsi en être nourri. Jean est connu pour être le disciple de l'amour, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Il faut beaucoup d'amour pour recevoir la révélation que Dieu a donnée à Jean. Je vous rappelle que par lui, nous avons cet évangile, mais nous avons aussi un livre si incroyable, si particulier. Lequel ? Waouh ! Alors certains voient l'Apocalypse comme la fin. Non, c'est la révélation. Et pour recevoir cette révélation, Dieu a pris Jean et l'a ramené sur l'île de Patmos, sur une île où il n'y avait que des voyous. Magnifique, hein ? C'est les bons endroits pour recevoir une révélation de Dieu. Nous, on aurait préféré être à l'église, non ? Mais Dieu dispose différemment parce qu'il fallait que rien puisse véritablement déplacer l'attention et l'engagement de Jean. Jean était engagé dans le service de Dieu. Et s'il était dans l'église, il aurait fait quoi surtout ? Il aurait servi l'église, n'est-ce pas ? Puisqu'il était appelé au ministère. Mais il y a un moment où, dans la vie de Jean où Dieu lui dit « Maintenant, je vais te mettre à part. » Alors on aimerait bien que Dieu nous amène sur la montagne, Sinaï. Hein ? Revoir encore une fois le Seigneur transformé dans un corps glorieux, voir Moïse, Élie, qui voudrait faire ce voyage ? Eh bien, ce n'est pas ça. Ah non, non, il va le ramener dans un endroit où il voit des voyous, des meurtriers, des gens qui ont fait des actes terribles et qu'à cause de cela, ils sont mis sur une île en disant, ben, comme ça, on en est débarrassé. Et Jean au milieu de tout ça. Pas évident, hein ? Comme quoi on doit se dire, Seigneur, parfois tu nous mets dans des situations, dans des circonstances, dans des lieux qui ne sont pas favorables. Mais si nous sommes là, c'est pour être témoins de Christ. Amen. Jean chapitre 1, versets 1 à 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'écrié, c'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Amen. En lisant ce texte, on pourrait se dire, mais pour quelle raison on peut parler de grâce? Pour quelle raison Jean démarre l'Écriture en démarrant très loin à la Genèse? N'est-ce pas? Pour quelle raison est-il si important d'avoir ce tableau bien clair dans notre tête? Alors moi j'ai mis comme titre au message « Tout » ou rien. Tout ou rien. Je ne peux pas choisir ce qui me convient, ce qui me plaît. Je dois accepter ce que Dieu me dit dans sa totalité. Et il n'est pas question pour moi de m'écarter, parce que du moment que je m'écarte, à quelque part, je perds tout. Je peux passer à côté. Je ne peux ne pas avoir saisi pleinement l'importance. Alors ça commence par parler de la parole, Logos. Cette parole qui a agi pour la création, elle était là, avec Dieu. Et elle accomplit la volonté de Dieu. Dieu est la parole. Alors quand je lis sa parole, parce que la Bible, c'est sa parole, je ne peux pas ni retrancher, ni ajouter. D'ailleurs, dans la dernière page de votre Bible, dans le livre de l'Apocalypse, il est dit de se garder bien de faire une telle chose, car les conséquences sont terribles. Mais alors, si on dit que la parole dit ceci, combien de fois il nous est arrivé de dire « Cette page, je la tourne vite. » Ce texte ne me convient pas. Ou cela, non, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Moi, je crois qu'il n'y a pas une parole de la Bible qui ne nous concerne pas. N'est-ce pas? C'est ce manuel d'instruction pour une vie authentique en Jésus-Christ. Et chaque information nous permet, frères et sœurs, d'éviter l'erreur. Il est question de cette parole qui était avec Dieu, de cette parole qui est Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour en être éclairés. Combien de fois nous cherchons par nous-mêmes des solutions? Ça vous arrive d'avoir des problèmes? Pas vous, hein? Mais dans le cas où ça vous arrivait, ô combien est important de s'arrêter et de se dire, mais quelle est la solution? Vous savez, quand on achète un véhicule neuf, hein, on aime bien, on met la clé et on démarre. Et après, des fois, on a des petites lupiottes qui s'allument. Oh, c'est pas grave. Eh bien, tôt ou tard, vous allez vous arrêter. Mais si vous vous arrêtez à temps, peut-être vous pourriez éviter de vous retrouver à pied. Et quand Dieu nous éclaire sur quelque chose, quand Dieu permet qu'il y ait une petite lumière qui s'allume en disant « Tu es en train d'aller où ? Tu fais quoi ?» Si on était suffisamment sage pour nous arrêter et pour dire « Seigneur, je vais chercher dans ta parole qu'est-ce que ça veut dire. Voir si c'est bon ou pas. » Un jour, une sœur venait de passer son permis de conduire. Et donc, elle a acheté une petite voiture. Elle était heureuse. Heureuse comme tout. Ça lui allait bien, sa petite voiture. Et donc, le premier jour, elle nous a appelé 2-3 fois. Un petit souci à droite, un petit souci à gauche. À un moment, elle est finie avec une roue dans un caniveau. Donc, on a été la récupérer. Après, elle a déchargé complètement la batterie. On est allé encore une fois la redémarrer, la pousser. Et le jour d'après, elle nous appelle. Et en fin de journée, alors on était étonnés, on s'est dit, tiens, elle ne nous a pas appelé aujourd'hui. C'est que tout allait bien. Et donc, elle nous appelle le soir, elle nous dit, écoutez, tout allait bien, mais j'ai eu le sentiment que la voiture n'avançait pas trop. Mais est-ce que tu as enlevé le frein à main ? Ah oui, c'est ce truc qui est à côté, oui. Ah oui, j'ai tiré dessus quand je me suis arrêté, mais après, j'ai plus pensé à ça. Et combien de fois dans notre vie, on essaie d'avancer en ayant laissé le frein à main bien tiré? Est-ce que c'est cela que Dieu nous demande? Est-ce que c'est la bonne manière pour nous d'avancer? Alors, il est question de ceux qui ont rejeté la lumière. Rejeter la lumière équivaut à rejeter le Créateur. Rejeter la vie qu'il nous propose, rejeter ainsi tout ce qui vient de lui, vivre une vie séparée de la lumière tout en sachant qu'elle existe et qu'elle brille. Il dit le texte que, qu'est-ce qui se passe ? Les ténèbres ne l'ont pas accueilli, ne l'ont pas accepté. Pourtant, quand on est dans une nuit complètement noire, il suffit d'une petite lumière, non ? Pour chasser les ténèbres. Mais il y en a qui préfèrent rester dans cette mode et dans ce mode de vie. Alors, la première chose pour nous, c'est d'accepter l'éclairage de Dieu tel qu'il est, accepter la parole de Dieu telle qu'elle est. Alors, il est question aussi de cette véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 9. Un éclairage, une révélation mise à la portée de tous les hommes, une lumière qui annonce et proclame et qui nous amène à un choix personnel et important. Alors, avons-nous reçu la lumière ? Que se passe-t-il quand il y a de la lumière ? Allô ? Que se passe-t-il quand il y a de la lumière ? Ah, on y voit bien. Mais souvent, la lumière nous fait voir ce qu'on n'aimerait pas voir. La lumière nous montre ce qu'on ne veut pas que les autres voient. Non ? Imaginez quelqu'un qui, à la fin du culte, sans vous informer, sans vous avertir, veut faire une surprise. Elle vient chez vous. Elle sonne à la porte. Alors si véritablement, en vous levant, vous avez allumé la lumière, vous avez vu ce qui n'était pas en ordre, vous avez rangé, tout va bien. Mais si vous êtes du style à dire, moi je préfère pas trop de lumière le matin, ça me fait mal aux yeux. Et que d'un coup vous avez quelqu'un qui sonne à la porte et vous devez ouvrir votre porte et vous dites, oh là là, qu'est-ce qu'elle va voir ? Hein, alors vous glissez les yeux derrière, vous dites, ah ben, c'est pas le bon moment. Ou autrement, il dit, tu ne regardes pas. Hein. Tu ne regardes pas au ménage, tu ne regardes pas aux habits, tu ne regardes à rien. Ferme les yeux. Ça vous est arrivé déjà ? Est-ce qu'on est à l'aise ? Est-ce qu'on aime bien cela ? Non ? Pourquoi ? On pourrait inviter la personne à rentrer en gardant la lumière éteinte. Dis, je lance une mode. Oui, c'est comme dans la pub. Ici, ce n'est pas... Voilà. Mais moi, je crois que notre cœur se doit d'être le temple du Saint-Esprit. Non ? Et qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être heureux que Dieu fasse briller non pas n'importe quelle lumière, la véritable lumière. Cette lumière qu'en réalité, frères et sœurs, n'est pas là pour nous accuser. Oh, t'as vu là ? T'as une toile d'araignée. Non, non. Vous savez, comme la visite de parfois de certaines personnes. Oula. C'était joli chez eux, mais oh là là, les toiles d'araignée. T'as vu, en rentrant à droite, à gauche. Que Dieu nous garde d'être comme ça. Il n'y a pas de ça dans le sud. Merci Seigneur. Mais je crois que le plus important dans notre vie, c'est de dire Seigneur, alors si on est prêt à le faire, sonde-moi. Et quand Dieu nous sonde, croyez-moi, il n'y a rien qui échappe. Alors certes, il aurait le droit de nous dire, hé, t'es converti depuis combien de temps ? Et alors là, t'as pas compris ? T'as pas fait ? Mais ce n'est pas ainsi que Dieu agit. Parce que là, il y aurait un manque de grâce, non ? Alors Dieu sait comment nous reprendre. Je lisais une petite histoire. Je vous la partage. C'est un peintre anglais qui va faire visite à sa fille. Et c'était l'heure du thé. C'est très british. Petit biscuit. Et comme c'est le moment de le thé, par exception, ils ont invité la petite fille à venir prendre le thé avec papy. Et papy, il est heureux. Mais la petite fille, elle va mal agir. Et donc, la maman va prendre la petite fille et elle va la mettre au coin pour la punir. Alors, le papy, il est triste. Il est triste parce que ça lui fait mal au cœur, ça. Mais il est sage. Il n'intervient pas parce qu'il dit, si maman, elle la reprend, moi, je n'ai pas le droit de... Mais le jour d'après, il est arrivé avec ses seaux de peinture. Et il est rentré dans la maison de sa fille. Et dans le coin où la petite était punie, il a commencé à lui faire tous des petits dessins. Tu vois, images de poissons, des images d'une girafe. Parce qu'il voulait lui faire comprendre que certes, parfois, on peut être puni, mais pour autant, Dieu ne tourne pas le dos. Parfois, frères et sœurs, on peut avoir fait des erreurs. Mais Dieu ne nous cache pas sa bonté, sa miséricorde, sa grâce et son amour. Pour autant, il ne nous met pas au coin. C'est nous qui fermons les yeux parce qu'on a honte devant Dieu. Non ? Des fois, vous êtes obligés quand vous voyez un enfant et que vous le grondez. Quelle est la première chose qu'il fait ? Ferme les yeux, ça va se passer. Hein ? Et les adultes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent la tête dans le sable. Ça va se passer. Mais la réalité, frères et sœurs, c'est qu'on devrait accepter que Dieu nous dise ce qui ne va pas dans notre vie. Et ce n'est pas pour autant qu'il nous rejette de sa grâce. Loin de nous d'imaginer une chose pareille. Parce qu'alors ça, ce n'est pas Dieu. Il n'est pas un père fouetteur. Et dans sa bonté, dans sa miséricorde, il sait comment nous élever, comment nous faire grandir. Alors le texte dit au verset 10, « Le monde ne l'a pas reconnu. » Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné quoi ? Verset 12. Il parle de quoi, là ? Pouvoir. De devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Vous savez que l'ennemi n'aime pas ce pouvoir. Il met tout en œuvre pour nous empêcher de réaliser que nous sommes enfants de Dieu et que comme tel, Dieu nous aime profondément. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous ne l'étions pas. Le véritable enfant de Dieu, véritable, il y en a un. C'est Jésus. Lui, il est fils de Dieu de toute éternité et pour toute éternité. Nous, nous le sommes devenus. Et quand il parle de pouvoir, ce n'est pas le pouvoir de faire ce qu'on veut. Vous savez, l'enfant roi. Non. C'est le pouvoir, finalement, de se reconnaître, de se sentir justifié, lavé et transformé par la grâce de Dieu. Alors, quelle importance doit avoir pour nous cette grâce? Puisque, au verset 14, il nous dit que la parole a été faite chair et elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Alors, c'est sur ce verset-là que ça m'a fait cogiter plusieurs heures pendant la nuit. Parce que, en réalité, je me suis dit, Seigneur, la parole qui a été faite chair, c'est qui? C'est Jésus, n'est-ce pas? Elle a habité parmi nous. Il est venu autant qu'homme, il a souffert comme homme, n'est-ce pas? Tout en étant pleinement Dieu. Il a accepté de s'humilier et il aurait pu user d'autorité dans bien des domaines. Mais l'autorité qu'il a utilisée, c'était pour chasser les puissances de l'ennemi, pour œuvrer pour le salut de notre âme. Amen. Il y a des moments où des fois on se dit « Ah, si seulement j'avais l'autorité et le pouvoir, qui aimerait être président un jour ? Pendant une journée ?» Non, non, vous n'êtes jamais dit « Ah, si j'étais président, je changerais 2-3 lois, je libérerais des places, je ferais ceci, je ferais cela. » Parce qu'on se dit « C'est une question de pouvoir, si on avait le pouvoir, on le ferait. » Mais est-ce que Dieu ne nous a pas donné le pouvoir ? Et il est question pour nous de changer quoi? Déjà notre vie, mais par notre attitude, le monde. Alors Jésus, il est venu comment? Plein de grâce et de vérité. Alors j'ai fait une petite recherche et je me suis rendu compte que le mot grâce sert à décrire plusieurs qualités de la vie. Et certaines, on peut les associer à Jésus. Alors pas la première, parce qu'il est question de la bonne coordination d'un athlète ou d'un danseur. Hein? Il bouge avec grâce. Mais la bonne manière et la prévenance envers les autres, est-ce qu'on peut l'associer à Jésus? Oui. Des paroles agréables et bien choisies, est-ce qu'on peut les associer à Jésus? La considération et l'attention pour les autres, ça aussi. Diverses expressions de bonté, de miséricorde, ça aussi. Alors on pourrait s'arrêter à la forme de la grâce. Mais Jésus était grâce pas seulement dans la forme, mais aussi dans le fond. Et quand je regarde le fond, il est question qu'il était plein de grâce et de vérité. Parce que si on use de la grâce sans la vérité, ça peut être une séduction, les belles paroles flatteuses. Des fois, quand vous rentrez dans les magasins, hein, vous savez, ces beaux discours qui vous accueillent. Et lui, déjà, il voit les petits billets. Et là, ils vous disent ce que vous voulez entendre. Mais quand vous rentrez chez vous et que vous ouvrez l'emballage, dites « Mais ce n'est pas ce que moi je voulais. » Mais il vous a dit ce que vous vouliez entendre. Et ça, ce n'est pas une grâce. C'est une séduction. La grâce que Dieu nous accorde, il n'y a pas de séduction. Jésus nous a jamais dit « Vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. » Non. Il dit ici, vous entendez ma voix, si vous obéissez, si vous faites ce que je vous dis, non? Josué s'est vu dire une chose pareille, quelques mots près. Médite ce livre jour et nuit pour agir fidèlement et alors tu réussiras. Mais nous, on a l'habitude de sélectionner les textes. Je bénirai ton entrée et ta sortie. Et on prend tout le côté de la bénédiction. Mais après, si vous allez un peu plus loin, mais si tu désobéis, et là, généralement, il n'y a jamais de petits traits qui soulignent. Regardez dans votre Bible, faites attention, vous verrez. On a tous tendance à prendre que les bénédictions. J'ai dans mon bureau une boîte que j'ai ramenée, ça fait, je crois que ça fait au moins 40 ans que je l'ai, avec les promesses de Dieu. C'est magnifique, hein? Mais on oublie que les promesses sont liées aussi à l'obéissance, à la soumission. Et quand la parole de Dieu nous dit que le Fils de Dieu est venu plein de grâce et de vérité, ça veut dire que l'une ne peut pas aller sans l'autre. Une grâce ne peut pas être accordée sans aussi de la vérité, n'est-ce pas? Pourquoi l'homme à la croix a été pardonné? Ce brigand. Nous, on aurait dit, bah, t'es bien là où tu es, mon gars. T'as vu tout ce que t'as fait? Non? Le seul qu'on aurait sauvé, c'est Jésus. Mais Jésus n'a pas pensé à se sauver lui-même. Il a sauvé le brigand. Quelle grande différence. C'est ça la grâce. Et il aurait pu dire, il y a deux brigands. L'un, il accepte, l'autre, il n'accepte pas. Allez, on fait un lot. On a quand même 50% de bonne réussite, non? Un petit compromis, c'est pas grave. Vous savez, comme cette petite chanson, on ira tous. Il y aura des sacrées surprises. Non? Mais pourquoi Jésus a pardonné cet homme? Pourquoi il lui a dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le ciel » Parce qu'il a compris une vérité profonde. Il avait besoin de se repentir et il avait besoin d'accepter Jésus comme le Fils de Dieu. Et puisqu'il a accepté cette vérité, il a eu accès à la grâce. Nous ne pouvons pas avoir d'accès à la grâce sans accepter la vérité. Et la vérité, frères et sœurs, c'est que nous sommes tous pécheurs. Non? C'est qu'on est tous imparfaits. Quand nos mains ont fait du mal, les mains de Christ ont été percées. Quand nos pieds prenaient des directions telles qu'ils nous plaisaient, les pieds de Christ ont été percés pour nous. Quand nos pensées nous ont amenés à tout et n'importe quoi, hein, Jésus a accepté qu'on lui mette une couronne d'épines et le sang a coulé. Hein, quand on a su prendre dans notre vie des décisions avec notre cœur, on a suivi nos sentiments, vous savez, et on est parti n'importe où. Jésus a suivi la volonté du Père en acceptant d'aller pour nous à la croix. C'est ça la grâce. Mais aussi une vérité, c'est que sans Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Alors, question pour nous, puisque il est question de dire, nous avons, et d'ailleurs c'est Jean qui le dit, nous avons contemplé. Sommes-nous en train de contempler le Seigneur? Oui? Comment? Comment contemplez-vous le Seigneur? En l'adorant, en méditant sa parole, quoi encore? En nous soumettant, oula, il ne faut pas le dire trop fort. Hein, c'est difficile, hein. Soumettre, ça bloque. Soumettez-vous, c'est mieux. Hein? En se disciplinant. Il y a plein de choses qui peuvent nous montrer la gloire de Dieu. Vous savez, et on aurait certainement, on serait limité dans la compréhension de Dieu si on limitait Dieu que à la soumission, certes, c'est important, hein, et je suis le premier à le dire. Mais cette soumission, elle doit être volontaire. D'ailleurs, vous savez ce que ça veut dire, la parole grâce? J'ai recherché. Alors certes, c'est quelque chose d'immérité. Et nous, on a gardé cette signification. Mais si on la prend dans son terme hébraïque, ça signifie se pencher, s'abaisser. Alors, il y a un auteur qui a exprimé les choses comme ça. Il s'appelle Donald Barnhouse. Il a écrit « L'amour qui s'élève vers Dieu et l'adoration. L'amour du prochain, l'affection et l'amour qui s'abaisse, c'est la grâce. » Quel amour avons-nous connu? Et quel amour exerçons-nous? Exerçons juste l'amour qui élève ou est-ce qu'on exerce aussi l'amour qui s'abaisse? Parce que Jésus, Il nous a manifesté les deux. Hein. Non ? Il a donné gloire à Dieu le Père, mais il a montré aussi cet amour qui s'abaisse pour le salut des hommes. Alors, vous savez, il n'est pas possible de contempler Dieu sans donner témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire rendre témoignage ? Oui ? Il est question de Jean, il dit au verset 15, « Jean lui a rendu témoignage et s'écrié, c'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. » Pour quelle raison Jean a utilisé sa voix dans un désert ? Quel était le but pour Jean de prêcher dans le désert ? Pourquoi Dieu a envoyé Jean précéder l'arrivée de Jésus ? Quel était le sens ? Pourquoi Dieu vous a placé là où vous êtes ? Quel est le sens ? Quelle est la raison pour vous d'être dans le lieu où vous travaillez ? Quelle est la raison pour vous d'être dans le quartier où vous êtes ? C'est par hasard ? Non ? Alors pourquoi vous êtes là ? Pour témoigner. Et en général, quand on parle d'un témoin, on parle de quelqu'un qui a vu quelque chose et qui l'exprime, n'est-ce pas ? Et du moment qu'un témoin a témoigné, on ne peut pas dire qu'on n'en sait pas, on n'a pas d'information. Puisque le témoin, s'il est véritable, s'il est juste, il va nous dire quoi ? Ce qu'il a vu. À partir de là, on peut se faire une idée. Quelle est l'idée que nous avons, nous, de Dieu ? Est-ce que nous considérons que Jésus est un témoin véritable ? Alors gardons-nous, nous, de modifier le témoignage. Gardons-nous de présenter Dieu autrement que comme Christ l'a présenté, n'est-ce pas ? Il est question pour nous de plénitude dans la grâce. Alors, vous savez ce que c'est la plénitude sans la grâce ? Parce qu'on peut toujours chercher à avoir pleinement raison sans grâce, non ? La pilule, elle ne passe pas. Une plénitude sans la grâce est comme un verre d'eau à moitié plein. Ça laisse dans la soif. Ça règle une partie des problèmes, certes, mais il est question pour nous, il dit, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Pourquoi grâce pour grâce ? Pourquoi il est question de recevoir grâce pour grâce ? Ça veut dire quoi, grâce pour grâce ? À votre avis, c'est que si je souhaite, si je désire, si j'ai besoin de grâce, je dois être aussi capable de faire preuve de grâce. Ah Seigneur, je peux faire preuve de grâce envers tout le monde, sauf à qui je pense. Tous Seigneur, qui tu veux, mais... Lui, c'est comme le brigand qui n'a pas... Mais qui es-tu ? Qui es-tu pour juger comme ça ? Tu imagines le jour où tu seras devant le Seigneur et peut-être tu verras cet homme à côté de toi, cette femme à côté de toi, il est en train de louer le Seigneur. Toi ici, qui t'a fait rentrer ? Qui t'a fait rentrer ? Et là, tu as quelqu'un qui vient et qui tapote sur l'épaule. Tu le regardes et tu vois que ses mains ont été percées. Et il te dit, c'est moi. Alors je ne veux pas être dans les habits de celui qui a dit, qui t'a fait rentrer. Hein. Non ? Parce que si lui, il n'avait pas le droit à rentrer, toi non plus. Et si Dieu a usé de grâce envers toi, sois aussi toi prêt à user de grâce envers lui. Non ? Et plus je use de grâce, plus Dieu me fera grâce. Vous reconnaissez cette histoire, et je vais terminer, hein, de cet homme à qui on remet une dette, une grosse dette. Hein ? Et il sort du tribunal, il est heureux parce qu'on lui a remis une grosse dette. Allez, on va dire 10 000 euros. Oh, c'est peu. 100 000, allez. Je vais demander de l'aide aux mathématiciens. Et après, il rencontre quelqu'un qui lui doit 100 euros. 100 euros. Lui, il a eu. On lui a fait grâce de. Et on lui doit 100 euros. C'est quoi la différence ? On chiffre. Ça donne quoi, on chiffre ? Alors, je vais vous laisser calculer tranquillement. Vous en ferez un débat à la maison. Vous m'enverrez la réponse par SMS ou par mail. D'accord ? Mais en réalité, si même il avait eu ses 100 euros, est-ce qu'il aurait jamais pu payer sa dette de 100 000 ? Et si on lui a remis la dette de 100 000, est-ce que lui ne peut pas aussi user de grâce pour 100 euros ? On dit amen. Mais parfois, c'est difficile parce qu'il y a des choses auxquelles on donne une valeur surdimensionnée. Seigneur, il m'a marché sur l'ombre du pied. Tu te rends compte ? Et Jésus pourrait te dire, et moi, mes pieds ont été percés pour toi. Un frère me disait il y a quelque temps qu'il avait vécu un miracle. Parce qu'il y avait deux sœurs dans l'église, et je mesure mes mots, qui se regardaient en chien de faïence depuis 20 ans. Et que finalement, au bout de 20 ans, ils ont compris qu'il fallait se pardonner. Alors vous m'excusez, mais moi je me dis comment on fait pendant 20 ans à s'approcher du pain et du vin et de garder ça dans notre cœur. Quel est le chapitre qu'on n'a pas compris ? Quel est le texte qu'on n'a pas compris ? Est-ce qu'on n'a pas compris la place de la lumière ? Est-ce qu'on n'a pas compris la place de la parole ? Est-ce qu'on n'a pas compris la place que Dieu doit avoir dans notre vie ? Est-ce qu'on n'a pas compris que la parole a été faite ? Quel est l'anneau qui nous manque pour avoir la compréhension du fait que si nous voulons la grâce, si nous voulons connaître Dieu, nous n'avons pas le choix, mais nous devons tout accepter ce que Dieu nous demande. C'est pour ça que je dis que c'est tout ou rien. On va terminer. Pour connaître Dieu, il faut accepter Christ, vérité et grâce. Pour connaître Dieu, il faut accepter la lumière et renoncer aux ténèbres. Pour connaître Dieu, il faut recevoir et vivre la parole dans sa plénitude. Alors nous allons parler de la grâce, peut-être d'une manière différente. Non pas, et je l'ai déjà dit, non pas la grâce qui est un tapis sous laquelle on cache la poussière, mais une grâce qui nous justifie véritablement et qui a une valeur pour nous. Une grande valeur pour nous. Si le Seigneur devait venir nous chercher aujourd'hui, est-ce qu'on est vraiment prêt à partir avec le Seigneur ? Sommes-nous sûrs ? Ou est-ce qu'il y a quelques points sur lesquels on a besoin encore d'être éclairé ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre vie qu'il faut régler ? Non pas demain, excusez-moi, hein. Moi, j'ai trop entendu, oui, je vais le faire. Demain. Demain ne t'appartient pas. Vous savez que pour bien dormir, il faut régler les choses avant. Et parfois, on peut oublier certaines choses. Et quand on a un problème de ce genre-là, vous m'excusez, mais on peut avoir du mal à dormir. Je ne dis pas que c'est la seule raison qui nous fait mal dormir, hein. Hein ? Des fois, il y a autre chose qui nous fait mal dormir. Il y a des problèmes, il y a des inquiétudes. Mais parfois, il y a des choses où Dieu nous reprend, nous remet en question. Cet été, j'ai pris quelques ouvrages avec moi en partant en vacances. Je me suis dit, tiens, je vais me faire du bien, je vais lire. Ça m'a fait énormément de bien. Mais il y a une nuit où je n'ai pas dormi. Parce qu'il y a quelque chose où le Seigneur a mis le doigt et qui m'a amené à devoir revoir ma copie. Et j'arrivais pas à dormir, vous savez, j'avais beau me tourner dans tous les sens, pas moyen. Jusqu'au moment où j'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Je me plie, t'as raison. J'ai tort, tu as raison, Seigneur. Et après, je me suis endormi comme un bébé. Moi, je bénis Dieu parce qu'il me reprend. Parce que le jour où Dieu nous reprend plus, c'est qu'on est devenu têtu. Des gens, du coup, raides. Qui a besoin de grâce aujourd'hui? Et demain? Et après-demain? Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, fais-moi grâce, mais donne-moi la capacité aussi d'user de grâce? Hein? On ferme nos yeux? Seigneur, ta parole nous invite à accepter tout ce que tu nous dis. Tu ne nous as pas donné la possibilité de sélectionner les règles qui nous plaisent, Seigneur, mais tu nous invites à connaître, vivre, respecter toute ta parole. Seigneur, merci encore pour ta parole parce que, Seigneur, elle nous amène à changer. Seigneur, merci pour ta grâce. Parce que sans elle, Seigneur, on ne serait pas là aujourd'hui. Cette grâce qui s'est manifestée, Seigneur, avec pleine d'amour et pleine de vérité. Cette grâce personnifiée en Jésus-Christ. Lui, il a accepté, Seigneur, de payer pour nous. Et en vertu de cet amour, Seigneur, encore aujourd'hui, nous te prions, Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, couvre-nous de ton sang et lave-nous de tout péché, de tout manquement. Seigneur, déracine dans notre cœur toute plante, Seigneur, qui amène à l'amertume. Seigneur, enlève de notre cœur tout ce qui nous empêche véritablement, Seigneur, d'être ces enfants de lumière, Seigneur. Que nous puissions non seulement être éclairés, mais être des témoins pour que le monde entende, Seigneur, et qu'un jour il ne puisse pas dire « Mais moi, personne m'a parlé de Jésus. » Seigneur, quelle honte serait pour nous que quelqu'un soit perdu parce qu'on n'a pas osé témoigner de toi. Seigneur, témoigner avec les paroles, c'est facile, mais tu nous invites à témoigner avec les actes, avec une vie, Seigneur, qui t'honore, Seigneur. Et Seigneur, qu'on puisse reconnaître en nous cette grâce surabondante, Seigneur, aussi par notre manière d'être, par notre manière de prendre soin des autres, par notre manière, Seigneur, de vivre tous les jours. Seigneur, je te bénis pour ta parole et je te dis merci parce que, Seigneur, encore, tu as composé avec nous tous une famille, Seigneur, oui, une famille par grâce. Seigneur, merci de nous avoir acceptés autant que tes enfants et de nous avoir accordé ainsi, Seigneur. Seigneur, ce pouvoir, Seigneur, de pouvoir être avec toi pour l'éternité. Nous te bénissons et nous te glorifions. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.